Voilà, nous bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour le temps que nous pouvons avoir en communauté de prier ensemble, parce que nous nous édifions dans nos prières et que nos prières nous portent tous à Dieu. Ce matin donc, j'aimerais aborder un sujet, la prière. La prière. Avec cette parole forte, ce slogan de Néhémie, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. C'est un parcours dans l'Ancien Testament. Ancien, parce qu'il y a l'Ancien et le Nouveau. Ancien, pas parce que c'est dépassé, non. Ancien, simplement parce que Christ a rendu l'Ancien nouveau, n'est-ce pas? Et que par le Christ, il nous donne de relire l'Ancien pour être éclairé. Et ces textes sont paroles de Dieu. Ils ne sont pas dépassés. Ils nous sont actuels, mais actualisés par ce que Jésus nous en a dit. Alors, je vous invite à faire la lecture dans le premier chapitre de Néhémie, chapitre 1. C'est tout le chapitre, hein? Et nous lirons aussi le chapitre 2. Ces quelques versets sont pas longs. C'est aussi l'intérêt en église, hein, de lire ensemble la parole de Dieu, n'est-ce pas? Là, j'ai mis 4 à 11, mais en fait, c'est versets 1 à 11. Voilà. Versets 1 à 11. Cette fois-ci, je lis dans une version que la plupart de vous possèdent, hein, c'est la version Lu Second ou Second 21. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumés par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux sois ouvert. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Chapitre 2, versets 1 à 6, sinon à 8. Et c'est la suite immédiat du texte que nous venons de lire. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du feu, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Verset 8, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. L'histoire d'Israël, qu'il faut dissocier avec le pays d'Israël d'aujourd'hui, même s'il y a un lien, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament est l'histoire de Dieu dans sa relation avec les hommes. Il prend un peuple comme un exemple. Pas parce que ce peuple est meilleur que les autres, mais la pédagogie de Dieu prend toujours par l'exemple. Soit un homme, soit une femme, soit un peuple. Il se trouve qu'Israël a été choisi par Dieu pour être ce modèle-là, pour montrer à tous les peuples comment Dieu aimerait que les peuples vivent. Israël a bien résisté dans son obéissance à Dieu pendant des années, pendant des siècles. Et c'était lié aussi à ses leaders. Tant que le leader qui conduisait Israël avait le cœur totalement à Dieu, le peuple restait fidèle à Dieu. Souvenons-nous de Moïse, souvenons-nous de quelques grands juges, n'est-ce pas, qui ont conduit le peuple d'Israël avec sérénité. Le livre des rois nous raconte la vie de tous ces rois, ceux qui ont été bons et ceux qui ont été mauvais. Et là, nous sommes dans un épisode où le peuple, malheureusement, à la fin de la royauté, on est vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, a totalement abandonné Dieu, où les leaders ont totalement fait ce que Dieu ne voulait pas. Et finalement, dans ce contexte de guéguerre des empires de l'époque, le peuple d'Israël s'est fait massacrer par l'empire babylonien. La grande ville qu'on appelait la ville de Dieu, Jérusalem, a été prise d'assaut. Cette ville qui ne tombait devant aucun ennemi est tombée. Cette ville que les gens craignaient n'était plus qu'un tas de ruines. Et le peuple a été déporté. Et nous savons ce que c'est que la déportation, n'est-ce pas? Ce peuple a été déporté hors de chez lui. Et en exil, ce peuple est revenu à Dieu, a reconnu son péché et a commencé à crier à nouveau à Dieu. Et Dieu a refait à nouveau, comme il fait toujours avec nous, n'est-ce pas? Il a refait à nouveau, il est reparti à zéro avec eux. Et il a suscité de nouveaux leaders pour faire revenir le peuple tout doucement sur son territoire à Jérusalem. Il a suscité un certain Zorobabel, il a suscité un certain Ezra, qui ont commencé à faire le retour du peuple. Et puis, là, il s'agit de Néhémie, un fils de ce peuple de Dieu, exilé, mais qui a eu aussi ce privilège d'être au service de l'un de ses grands rois, Artaxerxès II, hein, roi de l'empire Médo-Perse, n'est-ce pas? Et ce roi-là, sinon ce Néhémie-là, aurait pu se contenter de sa situation. Certes, il est exilé, mais il a une bonne position sociale. Il ne souffre ni de famine, ni d'un manque de toit. Il n'est pas à la rue. Il est même au service de ce grand roi. Bien plus, il est l'un des hommes de confiance de ce grand roi. Les chansons, c'est celui qui avait le rôle de goûter toutes les boissons qui étaient portées au roi. Il était le paravent, le bouclier, pour que si d'aventure il y avait quelque chose dans la boisson, que le roi ne meure pas, mais que lui, il meure. Un peu comme les gardes-corps aujourd'hui. Et le roi, comme les présidents aujourd'hui, ne choisissent pas n'importe qui pour être leur garde-corps approché. Et Néhémie a eu ce privilège d'être là. C'est pour ça qu'à la fin de sa prière, il dit, en ce moment-là, j'étais échanson du roi.
pour dire j'avais une position bien. Mais la prière de Néhémie nous parle, n'est-ce pas? Lui qui était si bien ne s'est pas laissé endormi par sa position, il a été touché par la détresse de son peuple. Il dit, lorsque j'ai appris ces nouvelles malheureuses de mon peuple, du peuple de Dieu, j'ai été abattu. Je suis resté plusieurs jours sans manger, sans boire, me demandant qu'est-ce que je pourrais bien faire. Il dit, je sais. Je commençais peut-être par prier, ça serait peut-être pas bête que je commence par prier. Peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Et je pense que c'est une grande leçon déjà pour nous. Quelquefois, dans nos combats de la vie, nous embrayons tout de suite sur les solutions, tout de suite sur les éventuels recours que nous pouvons avoir. Et nous oublions cette phase qui est peut-être la plus simple et peut-être la plus futile. La prière. La prière. La prière. Verset 4. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel. Cette évocation, je voudrais qu'elle nous aide à regarder quelques points ce matin de la prière de Néhémie. 5 points. Et je pense que ça peut aussi nous aider dans notre éducation à la prière, n'est-ce pas? Le premier point, c'est que son discours, sa prière, ses paroles, cette formulation qu'il a est une formulation de quelqu'un de humble, qui reconnaît sa position d'être humain et qui reconnaît qui est Dieu. Son discours humble et respectueux devant Dieu. Il se prosterne devant lui, il donne gloire à Dieu. Il reconnaît que Dieu existe, que Dieu n'est pas une affabulation, ni une imagination des hommes, ni comme quelqu'un l'a dit, l'opium du peuple. Non, que ce Dieu est bel et bien Dieu qui existe, que sa manifestation, lui, il la connaît, Néhémie, parce que ses pères en ont parlé. Et que si lui, l'exilé, Néhémie, est à la position où il est, alors qu'il aurait pu être mort, tué, ou comme un rien du tout, il se retrouve dans une position élevée, dans cette hiérarchie d'un autre peuple, ça ne peut être que la grâce de Dieu. Parce que Néhémie, instruit de culture juive, culture biblique, il sait que cette histoire lui rappelle quelqu'un qui s'appelle Joseph. Un certain Joseph, fils de Jacob, qui a aussi, par la grâce de Dieu, eu des fonctions dans l'Empire égyptien. Autant d'autrefois. Il avait cette terreur sacrée. Une terreur, c'est pas une peur qui nous fait paniquer, non. C'est un respect profond pour Dieu, n'est-ce pas? Devant la majesté de Dieu. Peut-être c'est des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Parce que notre vie chrétienne, peut-être, a devenu une vie, je sais pas quel mot utiliser, une vie peut-être religieuse finalement. Nous avons un rapport qu'à la religion, alors que notre vie chrétienne est une relation. Et si nous sommes en relation avec ce Dieu, nous pouvons vivre des choses, pas simplement mystiques, mais au quotidien, qui nous montrent la gloire de Dieu, sa majesté, sa grandeur, n'est-ce pas? Il est un Dieu qu'il faut adorer avec crainte et respect. Et Néhémie le sait. Il avait aussi une confiance dans ce Dieu-là. Parce qu'il dit, tu es le Dieu de l'Alliance, tu es le Dieu que quand tu décides quelque chose, tu le fais. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir dans notre relation avec Dieu. Les promesses de Dieu, ou ses commandements, ou ses lois sont vraies. C'est qu'il dit, peu importe les siècles, peu importe les temps, elles sont toujours d'actualité. Parce que cette alliance, Dieu l'a prise. Depuis au temps de Moïse, Néhémie est bien loin. On est à peu près au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Mais Moïse, c'est bien longtemps avant. Très longtemps avant. Mais il dit, cette alliance, tu l'as faite avec Moïse et elle est encore aujourd'hui d'actualité. Parce que tu es le Dieu de l'alliance. C'est un Dieu qui est miséricordieux pour ceux qu'il aime. Il n'est pas le père fouettard. Il n'est pas ce Dieu qui dit, ouais, je t'avais averti, tu l'as pas fait, tant pis pour toi. Tu restes dans ton état. Je peux plus rien pour toi. Hein, c'est des phrases que nous entendons. Je ne peux plus rien faire pour toi. Non. Ce Dieu, certes, est un Dieu droit. Quand nous désobéissons, il ne nous laisse pas impunis parce qu'il nous éduque. L'éducation de Dieu ne passe pas par l'impunité. Non. Elle passe, certes, par la punition qu'il faut ou par la correction qu'il faut, mais ensuite, par la restauration d'elle. Il restaure. Un peu nous, hein, comme nous, n'est-ce pas? Les parents, quand les enfants font ce qu'il ne faut pas, ben on monte au créneau, on les corrige. Mais est-ce qu'on les jette à la porte? Il me semble que non. Et les plus petits, ils le savent bien, n'est-ce pas? Même après la correction, ils veulent tout de suite un câlin. Parce que voilà. Et Dieu a mis ses forces en nous aussi. La relation que nous avons en tant que parents vis-à-vis des enfants, elle nous vient de Dieu. Elle nous vient de Dieu. Le deuxième point, c'est qu'il demande audience à Dieu. Ça paraît quelque chose de, pour nous qui sommes des chrétiens du 21e siècle, nous avons tellement accès à Dieu librement que demander audience, c'est un peu trop religieux, mais il sait qui il est, il sait que nous sommes à l'image de Dieu, mais que notre humanité, à cause de ce que nous avons hérité du péché, nous met toujours en disgrâce vis-à-vis de Dieu. Et que nous avons besoin, quand nous rentrons dans cette présence avec Dieu, voilà, d'avoir une certaine forme de solennité, une certaine forme de respect, cette audience. Il dit à Dieu, s'il te plaît, sois attentif, prête l'oreille, je t'en prie, prête l'oreille, parce que je veux te parler, parce que je veux te dire quelque chose. Et je voudrais que dans cette relation que je vais avoir avec toi, que j'ai un vis-à-vis, pas juste des paroles que je vais libérer comme ça, des formules que je vais libérer sans savoir ce qu'il en est. N'est-ce pas que parfois la prière ressemble à ça? On prie. Quelqu'un dit il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Parce que peut-être c'est que des mots, finalement, mais qui ne viennent pas d'une relation profonde à Dieu. Ou peut-être c'est une éducation aussi. On raconte l'histoire de deux missionnaires qui sont restés dans l'histoire de l'Église, qui était en pleine activité d'évangélisation, et puis le soir venu, ils étaient tous les deux fatigués. Et un, il avait l'habitude religieuse, et qui est bien du reste, de prier quel que soit le contexte avant de dormir. Et l'autre aussi faisait pareil, sauf que l'autre, il avait appris aussi à avoir une relation un peu libre avec Dieu. Libre pas dans le sens de la licence ou de la liberté ou du libertinage, non, mais libre dans le sens de dire, si je suis fatigué ce soir, je ne ferai pas forcément la prière que je fais tous les autres soirs parce que je suis fatigué. Alors quand ils sont rentrés tous les deux, celui qui avait l'habitude de faire la prière malgré tout, il s'est mis à genoux pour prier. Et l'autre a dit, merci Seigneur, il s'est endormi. Et le comble, c'est que le lendemain matin, quand l'autre s'est réveillé, il a trouvé l'autre à genoux, mais il était endormi. Donc finalement, il a voulu faire comme tous les jours, mais il était tellement épuisé qu'il a dormi à genoux en prière. Quelle est l'histoire qu'on peut tirer de ça? C'est notre Dieu, certes, il faut faire les choses avec respect, avec discipline, mais il y a cette liberté aussi dans la relation avec lui. Ne nous contraignons pas par des choses qui finalement enlèvent le sens et la force de la prière. Amen. Il dit que tes yeux soient ouverts. Ouvre tes yeux pour regarder la sincérité de mon cœur pendant que je suis dans ce moment de prière. Pour regarder la sincérité de mon cœur. Ouvre tes oreilles pour entendre mes paroles, mais pour voir que mes paroles viennent de mon cœur, ouvre tes yeux. La prière, c'est ça. Ce que je sors et que je formule vient du profond de moi. Qu'elle soit une louange, une adoration ou une requête. N'est-ce pas? Et puis le troisième temps, c'est la repentance. N'est-ce pas? Il sait que le Dieu dont nous parlons est un Dieu qui n'aime pas le péché. Vous savez, le péché, je l'ai déjà dit, le péché par définition déforme l'être humain. Peu importe le niveau de péché. Et c'est pour ça que Dieu ne l'aime pas. Pas parce que ça l'irrite d'abord, parce que Dieu sait que quel que soit le péché, ça va atteindre l'être humain qui l'aime tant. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas le péché, qu'il hait le péché. Peu importe la dose de péché, elle est un poison. le péché est un poison. Peu importe sa dose. Peu importe sa dose. Peu importe sa dose. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le péché. Il le hait. Et c'est pour ça que dans le psaume 139 que nous avons lu, David dit, j'ai de la haine pour des gens qui ne t'aiment pas. Dans le sens où, si on n'aime pas Dieu, malheureusement, on s'adonne tellement au péché qu'on est mauvais pour les autres. Et c'est ça qu'il est, des gens qui sont mauvais pour les autres, qui sont un poison pour les autres. Il se répand, non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple. Il dit, je sais que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous n'avons pas été obéissants à toi. C'est pas toi qui es le mauvais, c'est nous en fait qui n'avons pas obéi, n'est-ce pas? Parfois il y a cette phrase dans notre société, si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Il me semble que c'est une vraie question, qu'il faut l'entendre et qu'il ne faut pas la rejeter du revers de la main. Mais en fait, il me semble que parfois elle n'est pas bien formulée. Si Dieu n'existe pas, pourquoi le bien? Moi, c'est la question que je reformule. Si Dieu n'existe pas, pourquoi les hommes continuent quand même de faire le bien? Pourquoi quand tout va bien, on ne dit pas « Oh Dieu ». Pourquoi quand tout va bien, notre société ne reconnaît pas Dieu? Quand tout va bien, on dit c'est nous-mêmes, c'est notre progrès, c'est notre intelligence, c'est notre science, c'est notre connaissance. Oh, on est des êtres merveilleux, on est super doux, on est super intelligent, on sait très bien faire les choses. Et quand tout va mal, on cherche le coupable. Ah, le coupable nous désigné, c'est ce Dieu dont parlent les chrétiens. Il dit, je sais que la situation que nous avons là est une situation qui est la conséquence de quelque chose que nous avons fait. Toutes nos situations de détresse ou d'épreuve ne sont pas forcément la conséquence d'un péché que nous avons commis, que nos parents ont commis. Parfois, c'est que la vie est ce qu'elle est. Ça nous arrive parce que nous sommes sur la terre des vivants. Mais d'autres fois, sinon quelques fois, des situations difficiles que nous traversons sont aussi la conséquence de péchés que nous avons commis. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'arrêter et demander pardon à Dieu. Job, dans le livre de Job, le texte dit que Job, tous les jours, demandait pardon à Dieu pour ses propres péchés, pour ceux de son épouse et pour ses enfants. Tous les jours. Et Néhémie en est bien conscient. Il se repent. Cette corruption, cet affront à Dieu. Et Néhémie sait que le meilleur moyen dans la prière, finalement, c'est ce que Dieu a promis. Dans la prière, c'est les promesses de Dieu. Il dit, Seigneur, permets-moi de te rappeler cette alliance. C'est vrai que tu nous avais avertis que si nous nous comportions mal, nous allons subir les conséquences. Mais tu as aussi dit, si nous revenons à toi, si nous reconnaissons que nous avons mal agi et que nous nous ressaisissons, tu nous sauverais, tu nous restaurerais, tu nous rétablirais. Et c'est ce deuxième aspect que je veux te rappeler, Seigneur. Et c'est ce que Néhémie fait. Il rappelle cette promesse de Dieu, n'est-ce pas? Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Psaume 119, 49 à 50. Car ta promesse me rend la vie. C'est à elle que je m'attache, parce que je sais que toi, quand tu promets, tu l'accomplis toujours. Et enfin, il plaide dans cette relation, comme s'il te tient avec Dieu, n'est-ce pas? Il implore les grandes choses que Dieu avait faites, il se rappelle, et il dit, tu les feras encore, n'est-ce pas? Et il dit, nous sommes en relation avec toi, nous sommes le peuple qui est en relation avec toi, je suis un homme qui suis en relation avec toi, je ne suis pas juste dans un truc religieux, je suis dans une relation avec toi. Alors, fort de cette relation, entends-moi, agis, manifeste-toi. Donc voilà 5 points que nous pouvons, nous aussi, dans notre éducation à la prière, nous former. Cette humilité quand nous rentrons dans la prière, ce respect devant Dieu, n'est-ce pas? Il semble qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens du 21e siècle, on a tellement été habitués à l'aisance, à la liberté, que dans nos temps de prière, parfois, nous avons des postures tellement un peu décontractées. Il y en a qui prient, le pied sur la chaise là-haut, Il y en a qui prient en mâchant du chewing-gum. J'ai rien contre le chewing-gum. Hein. Il y en a qui prient en laissant la télé allumée. Franchement, si on veut parler à quelqu'un et qu'on veut avoir l'attention de la personne, est-ce qu'on ne fait pas l'effort d'avoir du silence autour? Et les dames le savent que trop bien. Quand elles veulent parler, qu'elles soient les mamans ou des épouses ou des fiancées, quand elles veulent parler à leur fiancé ou à leurs enfants, elles veulent l'attention. Et parfois, le monsieur ou le fiancé dit « J'écoute », mais la jeune dame sait qu'il n'est pas là puisqu'il y a la télé qui est allumée. « Non, mais tu m'écoutes pas, mais je te dis que je t'écoute. Vas-y, dis-le-moi. » Mais en temps, le regard est braqué sur la télé. Elle sent bien que l'attention n'est pas là. Comme l'oreille, on ne peut pas la fermer. Donc, bien sûr, l'oreille est ouverte. Mais l'attention n'est pas là. Et je pense que parfois, on fait ça aussi avec Dieu. Donc, essayons de nous rediscipliner dans nos moments de prière. Quelqu'un disait « Je regrette le temps où les chrétiens priaient à genoux. » Parce que je compte au bout des doigts les chrétiens qui prient maintenant à genoux. Mais la génuflexion n'est pas la seule expression de la prière, mais elle était une expression particulière. Je n'ai pas la nostalgie de la génuflexion, mais je vous dis, quand même, ça disait quelque chose dans la relation, dans la prière avec Dieu. Et que nous devons y réfléchir. Cette audience, cette confession, les promesses de Dieu et cette relation, ne l'oublions pas. Et nous, qui sommes une petite église, semble-t-il, n'est-ce pas? Nous avons une parole d'encouragement lorsque nous prions. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, dit, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus dit cette parole au moment où il sait que l'église vient de commencer. Que le nombre de chrétiens se compte au bout des doigts. Il leur dit, c'est pas le nombre qui fait la présence de Dieu. C'est l'adhésion du cœur qui fait la présence de Dieu. Si vous êtes deux, mais que vos cœurs sont sincères, si vous êtes trois et que vous me priez, je suis là. Je vous entends. Je vous écoute. Bien plus, cette promesse de sa présence est une promesse sûre, puisque c'est lui qui l'a dit. Il dit, non seulement je serai présent, mais vous aurez mon attention. Et même plus, vous aurez mon exaucement. Pourquoi? Parce que Jésus dit, par la suite, dans Jean chapitre 11, quand il parle à son Père, quand il vient en tant que fils, il dit, il leva les yeux, en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc, si Jésus nous dit, s'il est présent, il va nous exaucer, c'est parce que lui-même, il sait que dans la Trinité, il fait partie de la Trinité. Et que ses promesses sont oui et amen. C'est pour cela que quand le chrétien prie, il doit avoir cette conviction que Dieu l'entend et que Dieu est capable d'agir en réponse à sa prière. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on lui dit tellement. On dit que la reine d'Angleterre, je ne sais pas si c'est celle-là ou c'est celle d'avant, j'en sais rien, on dit, une reine d'Angleterre disait, je n'ai pas peur d'une armée ennemie. Je n'ai même pas peur de ma propre armée. Ce dont j'ai peur, c'est quand les chrétiens se mettent à genoux pour prier. Parce que là, je sais qu'ils peuvent déclencher des choses. Et les théologiens disent que Dieu peut agir comme il veut, où il veut, mais Dieu décide d'agir au travers de la prière de l'Église, au travers de la prière des chrétiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire prier sans cesse. C'est pour ça que même dans cet évangile que je vous ai lu, Jean 11 ou Luc 11, on dit comme à son habitude, Jésus alla prier. Jésus était régulièrement en prière. La prière vient de Dieu, frères et sœurs. Alors, si nous sommes une petite église, de quoi dépend l'exaucement des prières? D'après ce que le Seigneur nous dit, on a bien compris que cela ne dépend pas du nombre de personnes qui prient. Le nombre minimum, c'est au moins deux. au moins deux. En tout cas, pour la prière communautaire. Mais pour nos prières individuelles, on n'a pas besoin d'être deux. On a besoin juste d'être dans les cinq points que je vous ai cités. Néhémie était seul devant Dieu. Mais pour la prière de l'Église, pour nos Églises, le nombre minimum, c'est deux. Et je faisais la réflexion mardi dernier, une réflexion que je fais depuis quelques années. Sans juger personne, je me disais, c'est bien triste. Que nous ayons parfois des locaux. Une semaine de 7 jours. Nous avons un rendez-vous dimanche de toute l'assemblée avec Dieu. Mais nous avons aussi un rendez-vous en semaine. Mais combien sont là en semaine? Je ne juge personne. Je sais que dans notre agenda d'homme du 21e siècle, dans nos professions, dans nos métiers, nous n'avons pas le temps. Mais je m'étonne quelquefois que nous trouvions le temps d'être même jusqu'à 22 heures dans des supermarchés parce qu'on a oublié de faire les courses de la semaine. Et je me dis qu'on aurait pu quand même, ne serait-ce qu'un mardi dans le mois, dire je me garde un mardi sur les 4 mardis du mois pour venir participer à la réunion de prière de l'Église, car elle fait partie de la prière communautaire. Et que même si ce mois, j'ai pas pu, le mois prochain, je ferai encore un effort d'y être. Et je pense que cet effort, il est à la portée de chacun de nous. Et je le dis avec reconnaissance pour ceux qui viennent, mais aussi avec respect pour ceux qui ont des situations diverses et variées et qui ne peuvent pas venir. Mais je pense que mieux la barre est haute, mieux ça nous encourage à faire des progrès. Et je le dis d'autant plus, certains me disent, ouais, mais tu dis ça parce que toi, tu es pasteur, mais tant, tu n'as que le temps pour ça. Je dis, c'est vrai, mais j'ai eu une vie avant d'être pasteur. J'ai travaillé avant d'être pasteur. J'avais un métier avant d'être pasteur. Et même quand j'étais en études pastorales, j'avais un métier. Et je peux le dire, malgré ce métier-là, je n'étais pas pasteur, j'allais à la réunion de prière de l'Église. Pendant 3 ans, j'ai été dans la sécurité, dans l'accueil. Je travaillais dans un hôtel à la réception pour financer mes études. Je travaillais de 9h du soir à 6h du matin. Et parfois, les samedis soirs, je me trouvais travailler à l'hôtel de 9h du soir à 6h du matin. Mais pour moi, et avec mon épouse, c'était inconcevable que je ne sois pas au culte à 10h. C'était pas possible. Donc, même à 10h, j'étais au culte. Et après seulement, j'allais me faire un bon repos de sommeil. Parce que ce rendez-vous avec mon Dieu, il était important pour moi. Et j'ai vu que quelquefois, dans le monde séculier, les gens ont ces rendez-vous des dimanches. Vous connaissez les cyclistes du dimanche? Ils ne ratent jamais leur rendez-vous avec leurs copains le dimanche pour faire du vélo. À moins qu'ils soient malades. Pour du vélo. Parce que c'est leur passion. Si ce n'est pas maladie, ils sont à ce rendez-vous de dimanche. Et nous alors, ce rendez-vous avec Dieu. Frères et sœurs, cela ne dépend pas du nombre, mais que le nombre ne soit pas une excuse pour que nous ne venions pas non plus. Cela ne dépend pas, cela dépend de l'unité et de l'accord au sein du groupe. On en a déjà parlé, cette invitation à l'amour, à nous aimer. Cela dépend de la qualité de nos relations. Le texte dit, si deux s'accordent, hein, l'accord ici, ce n'est pas juste si deux viennent s'asseoir ensemble. Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. On peut s'asseoir sans s'accorder. Et d'ici deux s'accordent, c'est-à-dire si on est dans la même pensée, si nos relations sont saines, si nos relations ne sont pas embrouillées par des tensions, des incompréhensions. Nous avons cette invitation, si c'est le cas, de nous parler. N'est-ce pas? On connaît tous, en tout cas ceux qui ont une culture, connaissent le texte qui dit, si tu montes au temple pour faire ton offrande, qu'ils te souviennent. Ah, qu'il y a eu une petite embrouille entre toi et ton frère. Il dit, ça ne sert à rien d'aller faire l'offrande. Arrête-toi, essaie de régler cette petite embrouille. Et après, tu repars faire ton offrande. Parce que l'offrande que tu vas faire, tu l'auras faite, mais elle sera un peu entachée. Parce qu'il y a une relation qui est aussi entachée. Ce n'est pas une excuse pour dire, ouais, bon, je ne veux pas aller. Ce n'est pas ça que le test dit. Le test dit, soyons responsables. Si nous avons conscience qu'il y a des petites choses, essayons de les régler. Autant que cela dépend de nous. Si l'autre ne veut pas, on ne peut pas forcer quelqu'un. Mais au moins, toi, tu auras fait la démarche. C'est ça que le test dit. Elle dépend de la qualité de la relation. Travaillons-y. Que le Seigneur nous aide. Et puis, assez rapidement, parce que c'est des choses que nous connaissons, bon, je le répète là, hein, comment pouvons-nous attrister l'Esprit de Dieu? La Bible dit que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous bénéficions aussi de l'accompagnement de l'Esprit de Dieu, de sa présence, n'est-ce pas? Et cette présence, elle est une richesse pour le chrétien. Mais cette présence aussi peut être attristée. Dieu peut être attristé par le péché en général. Mais dans ce texte, il est mentionné clairement quelques éléments assez clairs, n'est-ce pas? Dans ce texte, il y a le mensonge, il y a la colère, il y a le vol. Oui, on dit un chrétien, normalement, un chrétien ne ment pas. Normalement, un chrétien ne se met pas en colère. C'est pas vrai. Hein? Parce que le texte dit, si tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se couchait. Ça veut dire qu'on est des êtres humains et que la colère est une émotion qui est suscitée par une contrariété et que dans notre vie quotidienne, il arrive que nous soyons contrariés et que c'est possible que nous soyons en colère. Mais que la colère, que nous ne cultivons pas la colère. Parce que du reste, déjà, elle est facteur de maladies psychosomatiques. Je ne sais plus trop les noms, mais on dit pour se mettre en colère, on utilise beaucoup plus de muscles que pour sourire. En tout cas, les muscles du faciès. Il semble que pour sourire, on utilise peut-être 3 ou 4 muscles, mais pour se mettre en colère, c'est un sacré exercice de musculation. Il faut voir le visage quand on est en colère, franchement. Donc, autant aller vers quelque chose qui nous détend naturellement et qui apporte un plus à notre santé. Donc, dans cette invitation spirituelle, il y a aussi la prise en compte de notre nature humaine, notre nature corporelle. Le vol, sans commentaire. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, la rancune. Vous savez, la rancœur vient du mot racine, vient du mot pourri. Étymologiquement, rancœur, c'est quelque chose qui pourrit. Donc, garder quelque chose, ça nous pourrit la vie, c'est ce qu'on dit. Mais cette affaire me pourrit la vie. Et c'est littéralement vrai, parce que quelqu'un qui garde les choses, il se fait beaucoup de mal. Et nous avons besoin de demander à Dieu. Parfois, c'est pas facile de lâcher. Mais Dieu veut nous aider à lâcher les choses, à nous libérer de ces choses. Et de sorte que notre communion avec lui, mais aussi notre relation avec son esprit, mais aussi notre santé puisse en être affectée positivement. Ensuite, il parle de l'immoralité dans toutes ses formes, l'escroquerie, les divers vices, et même il parle de nos façons de parler, n'est-ce pas? À la fin de ce chapitre 5 d'Éphésiens, il dit « Fini les propos indécents, les histoires grossières et les bons mots équivoques. Tout cela n'a plus de place parmi les chrétiens. » Donc il dit « Voilà, un chrétien, une chrétienne, franchement, c'est pas quelqu'un qui va employer tout ce qu'on sait comme vocabulaire d'insanité. » En plus, dans la culture qui est la nôtre, la culture française, on est des champions de ça. Et tout dernièrement, dans le spectacle de Jamel Debbouze, Marrakech, le riz à Marrakech, il y a un de ces humoristes qui dit qu'il n'est pas français, mais d'adoption, qui est anglais. Et il dit la langue française, elle est riche. Et la démonstration qu'il en fait, c'est toutes les injures qu'il y a dans la langue française qui sort dans son humour. Il dit, c'est ça la richesse de la langue française. Il disait quelque chose qui n'était pas très encourageant pour nous, les francophones, mais qui était une réalité. Que Dieu nous aide. Nos bouches ne sont pas des poubelles. Et ce n'est pas une bonne éducation que nous donnons aux enfants, que si longueur de journée, c'est que ça qui sort de nos bouches. Quand je vois des petits gamins comme ça sortir, les gros mots, je dis, oulala, il va grandir avec ça, et demain on va lui reprocher quelque chose, alors que quelque part, il a copié quelque part. Essayons d'être des exemples, autant que nous pouvons l'être. Nous pouvons aussi réjouir Dieu, n'est-ce pas? Par la vérité de nos paroles, par notre travail honnête, par la bienveillance, par des bonnes paroles, des paroles qui encouragent, qui exhortent, qui édifient, par l'amour, la bonté, la miséricorde, par la conformité de notre vie à Christ, par la prière, la louange à Dieu, par un comportement humble et soumis à l'amour de Dieu dans nos relations, n'est-ce pas? Et c'est ça notre but, n'est-ce pas? De réjouir l'Esprit de Dieu. Et puis, finalement, il y a ce modèle de prière que Jésus nous donne, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Les évangéliques, les protestants n'ont pas appris. Beaucoup d'enfants nés dans les milieux évangéliques ne connaissent pas cette prière. Parce que nous avons pris en tant qu'évangéliques de dire, on l'a trop fait comme une récitation. Et nous ne voulons pas que nos enfants la récitent. Parce que cette prière n'est pas une récitation. Nous voulons que si nous la disions, nous la disions avec la portée de la prière. Et l'adoration dont on parle, c'est l'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Donc c'est un modèle de prière que Jésus donne. On peut certes la prier, on peut la réciter, mais c'est plus un modèle qu'une prière à réciter. Finalement, que ton nom soit sanctifié, c'est l'adoration à Dieu, n'est-ce pas? Que ton règne vienne, c'est le sous-sous du retour de Christ. Apocalypse termine en disant, viens Seigneur Jésus. Et les requêtes du quotidien, la Bible dit que Dieu sait que nous avons besoin du quotidien. Donc, demandez
qui prennent en charge, qui nous aident dans notre quotidien, c'est logique. Et enfin, qui nous protège contre l'ennemi de notre foi, contre le diable, contre ces assauts que nous ne connaissons pas parfois, qui nous aident à éviter les pièges de la vie dans lesquels nous pouvons tomber, n'est-ce pas? Voilà ce qui est cette prière. Et puis enfin, pour terminer ce temps de message, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que l'Église soit à genoux, que le chrétien et les chrétiennes soient à genoux dans la prière. Que pour nos vies, que ce texte ne soit pas accompli en nous, n'est-ce pas? Deutéronome, je l'ai mis là. Je ne l'ai pas mis là, là vous avez un Corinthien, mais je vais le lire pour vous. C'est Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 4. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits. Donc c'était un avertissement déjà au peuple de Dieu. Lorsque les conditions de ta vie seront bonnes et que tu sois dans un minimum d'aisance, ne fais pas le paresseux dans la prière. Vous savez, souvent, quand on est... On prie beaucoup. Et après, quand on est... On prie moins. La prière ne doit pas être liée à notre condition sociale. Et il dit, garde-toi, quand je t'aurai béni et que tu seras rassasié, garde-toi de ne plus faire ce que tu faisais autrefois. Une invitation à être conséquent. Et pourquoi nous devons prier aussi? Parce que ce défi qui est là, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire, si nous sommes là. Nous disons, la Bible dit qu'on n'est pas né chrétien, on est devenu chrétien, on a adhéré à cette foi. Parce qu'on nous a annoncé l'évangile, que ce soit en famille ou ailleurs, et Dieu nous a aidés à répondre favorablement. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour nous. C'est parce que l'Église prie pour nous. Et nous, nous devons continuer de prier pour que Dieu continue d'apporter des vies dans sa maison. C'est la puissance de la prière. Et de la prière découle l'action de l'Église. La prière peut être parfois un exercice difficile. C'est un combat spirituel. Mais nous devons persister. Nous devons lutter. Parce qu'à la fin, comme le dit Néhémie, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Et ces trois derniers versets, c'est les derniers. Il nous rappelle dans ce verset 20 d'Éphésiens 3, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu agit en nous. C'est pour ça que les chrétiens sont invités à prier. Parce que la prière, Dieu fait des choses qui parfois sont extraordinaires, même s'ils sont parfois quotidiens. Et là, je vous l'aurais dit, mais je ne le lis pas parce qu'on l'a déjà lu, si deux ou trois s'accordent, une fois de plus. Et enfin, Jésus qui dit que Dieu l'exauce toujours. Donc si nous prions au nom de Jésus, avec les promesses de Dieu, ayons ces convictions que Dieu nous entend et qu'il est aussi sensible. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai pris du temps, c'est vrai, pour expliquer ce que c'était que la prière à mes frères. Je prie simplement que nous ne soyons pas des experts de la prière en théorie, mais que nous soyons des pratiquants de la prière. Que nos vies soient des vies, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Parce qu'au travers de la prière, comme nous l'avons vu avec Néhémie, tu décomptes des situations, tu apportes ta bénédiction et tu agis puissamment dans les vies individuelles, mais aussi dans la vie de nos sociétés. Alors, conduis-nous en tant qu'Église à rester vivants dans la prière. Conduis-nous en tant que chrétiens, chrétiennes, et des chrétiens, des chrétiennes qui prient cette prière de qualité. Au nom de Jésus. Amen.